Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Clara, l'explosion des demandes pour devenir pompier volontaire.
La mobilisation historique de cet été contre les incendies est en train de faire germer des envies, des vocations. Enquête RMC dès le début de ce journal. Il y aura plus d'internes à la rentrée dans les hôpitaux, plus 15% annonce le ministère de la Santé pour lutter contre les déserts médicaux. Et puis la FIFA présente ses excuses après 10 jours de polémique sur son projet avorté d'investissement privé.
Les nombreux incendies de l'été auront au moins un point positif. Ils sont en train de susciter des vocations, Clara.
Jamais la France n'avait autant brûlé avant cet été. Des milliers de pompiers mobilisés en Gironde, dans le Var, dans la Drôme ou encore en région parisienne. Ils sont toujours plusieurs centaines sur le terrain et leur rang pourrait s'étoffer dans les prochaines années. Les demandes pour devenir pompiers volontaires sont en tout cas en train d'exploser. Enquête RMC signée Lucille Pascanet.
Gabriel Martin a 18 ans et il vient de candidater pour devenir jeune sapeur-pompier.
C'est déjà passé dans ma tête, oui, mais pas réellement une idée qui pourrait se concrétiser. Mais évidemment, avec ce qui se passe actuellement, je pense que je suis obligé d'essayer de m'engager et de passer les tests. Il y a plein de types de bénévoles. Mais moi, j'ai envie d'être au cœur de l'action.
Chez lui, en Meurthe-et-Moselle, le nombre de demandes de renseignements a été multiplié par 10 ces dernières semaines. En Gironde, comme dans le département de l'Indre, il a triplé.
Notre service RH, il a enregistré 32 demandes là, ces derniers jours. On en a peut-être toujours entre 5 et 10 en même temps.
Guillaume Bouquet est directeur départemental adjoint du SDIS 36.
En 2015, après les attentats qu'il y a eu en France, on a eu aussi une vague d'engouement citoyen et des gens sont venus taper à la porte de la caserne à côté de chez eux. Il semble que là, peut-être, on ait la même forme d'engouement. Et tant mieux, j'ai envie de dire, si ça suscite des vocations. On a toujours besoin de sapeurs-pompiers volontaires.
Il espère que cette tendance va se pérenniser et que ces volontaires intéressés iront jusqu'au bout de la démarche.
En Gironde, les pompiers sont enfin maîtres du feu, selon la préfecture. Après 2 semaines d'intense lutte contre les flammes, ils sont environ 600 encore mobilisés contre les fumerolles. Et du côté du Porge, les habitants sont encore très remontés contre les autorités. Leur commune est la plus meurtrie par cet incendie. Et c'est une information RMC. Le collectif qui s'est formé va se réunir mercredi prochain en vue d'une action judiciaire. Julie Brault, ils estiment avoir été délaissés.
Oui, les habitants du Porge entendent porter plainte, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, eux qui assurent avoir reçu bien trop tard l'ordre d'évacuation de la préfecture, alors que les flammes pénétraient dans leur ville. Ces derniers jours, les quelques 900 membres du collectif ont réuni plusieurs messages, vidéos et témoignages, laissant place à de nombreuses questions. Quelles mesures ont été prises pour contenir les flammes ou encore pourquoi n'ont-elles pas été orientées différemment? La réponse de la fatalité n'est pas entendable, assure maître Sylvain Galina, avocat du collectif chargé de déposer et plaintes d'ici la fin de l'été afin d'obtenir des réponses claires, par exemple en demandant à avoir accès aux communications des pompiers et des autorités mobilisées dans la gestion des flammes.
Des accusations réfutées par la préfète de Gironde. Selon elle, il s'agit d'une offense faite aux sapeurs-pompiers de penser qu'une vie vaut davantage qu'une autre dans leur esprit. Elle promet toutefois qu'un retour sera fait sur la gestion de cet incendie. Sophie Broca, qui débloque par ailleurs 300 000 euros d'aide d'urgence pour les collectivités confrontées à des travaux après le méga-feu, un comité de pilotage également mis en place pour la reconstruction.
Des places supplémentaires pour les nouveaux internes en médecine.
Ils seront 10 260 dans les hôpitaux à partir de novembre, annonce du ministère de la Santé qui se félicite d'une progression historique. C'est 15% de plus que l'an dernier. Objectif, lutter contre les déserts médicaux. Une hausse dont se réjouissent les soignants, Léonie Guilbeault.
Ces nouvelles arrivées sont indispensables, explique Arthur Poncin, président de l'intersyndicale nationale des internes.
Les internes font tenir l'hôpital public, travaillent 59 heures par semaine en moyenne. Donc ça va aussi permettre ces nouveaux internes en plus d'améliorer les conditions de vie et de travail dans les hôpitaux.
Des bras en plus dans les spécialités en tension, comme la dermatologie ou la pédiatrie, avec une augmentation des effectifs d'étudiants de plus de 20%. Mais Jean-François Sibien, médecin urgentiste et président d'un syndicat de médecins hospitaliers, nuance, attention aux effets d'annonce pour certaines spécialités comme la psychiatrie.
Vous avez 102 internes en plus avec 665 postes. On va vous dire en pourcentage, c'est énorme, c'est 18,1%. Il faudrait qu'il y en ait le double aujourd'hui. Donc la psychiatrie, avec la demande de soins qui a explosé, on n'est pas au niveau auquel on devrait être.
Et les potentiels effets sur les déserts médicaux ne se feront pleinement sentir que dans une dizaine d'années, explique-t-il, quand les internes auront fini leurs études.
Léonie Guilbeault, le corps de la femme emporté par les eaux en haut de sa Savoie a été retrouvée. Elle a été victime de la montée des eaux après un violent orage près de Samoin. Une femme de 56 ans, originaire de l'Oise, qui était en vacances dans la région avec son mari. Le chef Jean Humbert échappe pour l'heure à une mise en examen après 36 heures de garde à vue et une audition par un juge d'instruction. Il est placé sous statut de témoin assisté. Le vainqueur de Top Chef accusé de violence conjugale par plusieurs de ses ex-compagnes. Une polémique à l'Assemblée nationale, mais cette fois hors de l'hémicycle et sans les députés qui sont toujours en vacances. Polémique provoquée par ce projet de nouveau pavillon d'accueil des visiteurs au Palais Bourbon, un pavillon flambant neuf pour une valeur de 50 millions d'euros. La mairie de Paris vient de donner son feu vert au chantier. Pourtant, nombreux sont ceux qui n'en veulent pas. Une pétition rassemble déjà plus de 70 000 signatures. Sonia Gobry, les élus, eux aussi, montent au créneau.
Rien ne justifie un chantier d'une telle ampleur, s'insurge Hélène Laporte, députée RN et vice-présidente de l'Assemblée nationale.
On va démolir un bâtiment qui date de 1886, il a 140 ans, il s'intègre parfaitement dans l'ensemble visuel autour de la colonnette du Palais Bourbon. Il n'y a pas urgence à détruire et un beau bâtiment et à dépenser 50 millions d'euros. Alors qu'on sait qu'actuellement on est dans un contexte budgétaire très compliqué.
C'est délirant, ajoute Émile Meunier, élu de la ville de Paris, allié de LFI. Au-delà du coût estimé des travaux, il dénonce une aberration écologique.
Le bâtiment en va devoir être climatisé en été et réchauffé très fortement en hiver.
Je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, parmi ses premiers actes architecturaux, valide ça.
C'est François Vauquelin, l'adjoint d'Emmanuel Grégoire, chargé de l'urbanisme et de l'architecture, qui a répondu aux critiques lors du dernier Conseil de Paris.
C'est par ailleurs un projet qui n'est pas encore approuvé. Le permis de construire sera délivré par l'État et sur un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
Il reste d'autres étapes, répond aussi l'entourage de Yael Braun-Pivet. Sous le feu des critiques pour ce projet de nouveau pavillon d'accueil de l'Assemblée, elle reste silencieuse.
Sonia Gobry, service politique d'RMC.
La FIFA fait son mea culpa face au scandale suscité par son projet d'ouverture à des investisseurs privés.
Projet que la Fédération internationale de football a dû abandonner face aux critiques. La direction de la FIFA essaye désormais d'éteindre la polémique. Elle a publié un communiqué hier soir après une réunion de crise au Maroc. Célestin Bougère, la FIFA reconnaît des erreurs et présente ses excuses.
Ah oui, des excuses, mais la FIFA ne lâche pas Gianni Infantino pour autant. Elle a réaffirmé son plein soutien à son président qui est attaqué de toutes parts ces derniers jours, à commencer par Luis Figo. Son conseiller a réclamé hier la démission du patron de la FIFA. Il est trop tard pour sauver sa dignité, mais pas pour sauver le football, a écrit la légende portugaise. C'est Matthias Grafström, l'homme le plus proche de Gianni Infantino, qui a donné le coup de grâce dans un mail envoyé aux employés de la FIFA. Le secrétaire général parle d'une série d'événements tristes et répréhensibles. Mais après ce mea culpa, la FIFA prévient, elle ne tolérera plus aucune atteinte à son intégrité, alors que plusieurs confédérations continentales avaient menacé de boycotter les prochaines Coupes du Monde. L'instance dirigeante du football mondial assure qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger son nom et sa réputation.
Célestin Bougère. En tennis, l'Allemand Alexander Zverev, éliminé d'entrée de jeu au Masters 1000 de Montréal, le gagnant de Roland-Garros, expédié en moins de 3 heures par le Néerlandais Talon Grikspoor, 69e mondial. Sur le Tour de France femme, le rêve d'un doublé s'éloigne pour Pauline Ferrand-Prévot. La Française a encore creusé son retard hier sur la 5e étape du Tour de France femme dans le Beaujolais. Étape remportée par la Néerlandaise Demi Vollering. 6e étape aujourd'hui pour les baroudeuses entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône. Ce sera à vivre sur RMC, arrivée prévue vu aux alentours de 17h30, ce qui vous laissera peut-être un petit peu de temps pour aller au cinéma, voir le dernier Pat Patrouille, 3e volet avec ses petits chiots dont raffolent sûrement vos enfants.
Et
ils
aussi
ne sont pas les seuls, évidemment. 3,5 millions d'entrées pour les deux premiers films de la saga. Philippine Boulet, hier jour de sortie, les spectateurs étaient au rendez-vous.
Collision imminente !
Retour attendu de la bande de chiots préférée des plus petits.
Il va falloir s'équiper comme il faut.
Sébastien, 7 ans, sort tout juste de sa séance et il a adoré l'histoire.
En fait, il découvre une île des dinosaures et c'est vraiment passionnant. Au début, on a un grand mystère. Vers la fin, on comprend, mais il faut bien écouter tous les détails.
Tu penses que tes parents, ils ont compris ?
Peut-être.
Oui, je pense qu'on a compris.
Léon, 6 ans, est venu avec sa maman, Audrey. Alors, t'as bien aimé le film ?
Oui, il me fait rire.
C'est qui ton préféré dans la Pat Patrouille ?
C'est...
Chase, un policier.
Une sortie aussi attendue par les professionnels comme Cédric Aubry, le président du syndicat des cinémas indépendants, le Cinéo.
Sur cette première journée, en tout cas, ça se confirme. On a un démarrage de pas de patrouille tonitruant.
Les deux premiers volets avaient déjà attiré plus de 3,5 millions de spectateurs en France.
Pas de patrouille, qui est une franchise qui déclinait merchandising énormément. Et donc, c'est aussi ce qui fait tout le succès de pas de patrouille dans les salles de cinéma.
Il espère maintenant voir les familles défiler dans les salles tout au long du mois d'août avec une musique en tête.
Pas de patrouille.
C'est cadeau.
La musique en tête.
Évidemment.
Merci beaucoup, Clara. Merci. Bon, moi, mes filles sont grandes, j'y échappe. Mais bon courage, bon courage pour les autres.
Des grands, ça fonctionne.
Ouais, merci, Clara, d'avoir été avec nous. Prochain journal, ce sera à 8h30 RMC. Il est 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Victor Pourchet, toujours avec nous. Victor, pour lire vos messages sur le WhatsApp d'RMC au 06 12 424 424, ça réagit notamment sur les pompiers.
Et oui, parole de pompiers ce matin sur le WhatsApp RMC pour cette explosion des candidatures pour devenir sapeur-pompier volontaire. On a justement Morgane qui nous dit: j'ai 32 ans, je suis volontaire depuis mes 16 ans, un vrai passionné. Alors oui, c'est très bien de vouloir devenir sapeur-pompier volontaire, nous dit Morgane, mais à l'image du monde professionnel, les gens viennent et se rendent vite compte qu'ils n'ont rien à faire là. Ils dénoncent, Morgane, un niveau en baisse, moins de formation et l'État qui baisse les effectifs de garde dans certains centres pour faire des économies. Dans les 3 mois, les gens auront oublié, nous dit Morgane. On a aussi Jean-Louis qui témoigne. Il a été pompier pendant 36 ans. Il dit oui, il y a beaucoup de pompiers qui arrêtent au bout de quelques années. Et en même temps, il ne faut pas oublier que les volontaires ont aussi un boulot à côté et qu'il y a les gardes mensuelles, il y a la formation. Et dans la commune où il habite, 2000 habitants, les pompiers font autour de 600 sorties par an. Forcément, ça prend énormément de temps. Et puis on a Michel qui lui nous dit qu'il s'est occupé des conventions employeurs avec une grosse entreprise de son secteur pour mettre à disposition justement les pompiers volontaires sur leur temps de travail. C'est la seule solution, la solution qu'il faut creuser pour que ça aille mieux, nous dit Michel.
Allez, dans un instant, l'interdiction au moins de 16 ans de traîner dans la rue après 23 heures. La justice vient de suspendre les couvre-feux décrétés dans 4 villes de la Loire. Dans un instant, la réaction de Régis Cadegros, premier adjoint à la mairie de Saint-Chamond, l'une des communes concernées. Il dénonce une décision politique. Vous voulez réagir, vous comprenez ou pas ces couvre-feux, vous nous appelez au 3216. Bon réveil à tous, à tout de suite. Des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu avant-hier les arrêtés de couvre-feu et d'anti-regroupement pris par 4 communes de la métropole stéphanoise. Saint-Chamond, Villars, La Talaudière et Saint-Priest-en-Jarret. Le tribunal évoque un doute sérieux sur leur légalité, l'absence de circonstances locales particulières et fait rare. C'est le préfet lui-même qui a attaqué ces arrêtés. Bonjour Régis Cadegros, j'espère bien prononcer votre nom tout d'abord.
Oui, tout à fait, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Saint-Chamond dans la Loire. Le tribunal vous donne tort, vous le prenez comment ?
Alors écoutez, moi j'ai été très étonné, voire stupéfait, que cet arrêté qui concerne encore une fois les mineurs sans leurs parents en dessous de 16 ans qui traînent dans les rues après 23h, 24h, voire jusqu'à 2h du matin, était très étonné que cet arrêté soit suspendu. Je rappelle que la sécurité, c'est une compétence régalienne de l'État qui doit assurer la sécurité des concitoyens. Or, là, il faut bien reconnaître qu'il y a souvent un abandon de l'État et c'est les polices municipales qui prennent le relais. Mmh. Nous avons énormément investi sur la ville de Saint-Chamond pour développer notre police municipale. Depuis 2014 que je suis élu, nous avons doublé le nombre de policiers municipaux. Le nombre de caméras est passé de 10 à près de 300. Nous avons créé un centre de supervision urbain, nous avons armé nos policiers. Tout cela a un coût, et je suis désolé de voir que l'État non seulement ne nous aide pas, mais en plus nous entrave et nous empêche de travailler correctement à la protection des habitants.
Vous avez l'impression, j'ai l'impression, enfin, en tout cas c'est le sentiment que vous donnez, Régis Cadegros, d'être laissé pour compte, en tout cas livré à vous-même, et en plus, quand vous prenez certaines mesures, on vous met des bâtons dans les roues.
Absolument. Et c'est pas une question, moi je considère que c'est pas une question de politique de droite ou de gauche, c'est une question de bon sens. Quand vous êtes parents, quand vos auditeurs qui nous écoutent, là, ont des enfants, ont des petits-enfants, et quand ils ont des enfants de 12, 13 ans qui traînent dans les rues du matin, moi quand j'étais parent, mes enfants ne traînaient pas dans les rues, et je connais beaucoup de personnes qui nous ont remercié d'avoir pris cette
C'est vrai que c'est assez surprenant, en tout cas, c'est vrai que... C'est la première question qu'on se pose, c'est que font des gamins de 12-13 ans dans la rue après 23h. Mais restez avec nous. Restez avec nous, Régis. Cadeau gros. Gary nous rejoint au 32-16. Bonjour Gary.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. On est dans le Nord, à Roubaix, c'est ça Gary?
C'est bien ça, oui.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis ambulancier.
D'accord. Et vous, ça vous parle, cette couvre-feu mise en place?
Bah écoutez, moi je suis à terre, parce que moi je pensais que c'était obligatoire. Moi, pour moi, ça devrait être obligatoire. Un enfant mineur de moins de 16 ans n'a rien à faire dans les rues, même s'il est accompagné, enfin s'il n'est pas accompagné, surtout, il n'a rien à faire dans les rues. Quoi. Je
trouve ça, vous envoyez, vous, à Roubaix?
Incroyable. Mais c'est incroyable. Moi, je vous assure que sur Roubaix, après sur les alentours aussi, ça préparait sur Tourcoing et tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes mineurs qui sont là toute la nuit. Ils vivent de la nuit, de toute façon. Parce que chez nous, tu étais ouvert, les magasins ouvrent qu'à 20h, les magasins de nuit. Et c'est tous les magasins, ils font des crêpes, ils, vraiment tout est à volonté pour ces jeunes. Et eux, ils préfèrent vivre la nuit, il fait moins chaud. Pour eux, c'est plus simple. Et puis, c'est incroyable le nombre de gamins qu'on voit. Nous, il y a pas longtemps, il y a quelques années, on avait le petit Baraquette, un petit jeune homme de 10 ans qui vivait la nuit, qui faisait des vidéos sur Snapchat qui étaient bien connues. Et on a vu la dérive que ça a donné, quoi. Ouais.
Régis Cadegros, merci Gary d'avoir été avec nous depuis Roubaix dans le Nord. Régis Cadegros, bon voilà, on sait que le phénomène n'est pas propre à la Loire et encore moins à Saint-Chamond. On comprend l'étonnement de Gary, c'est l'étonnement d'un certain nombre de ceux qui réagissent également sur Direct Studio. Victor me le disait à l'instant, avec cette question, mais que font, où sont les parents de ces mineurs? Vous vous dites, Régis Cadegros, que c'est une décision politique aussi de la part de la justice. C'est une accusation assez lourde.
Moi, j'aimerais, si vous voulez, que les services de l'État soient aussi rapides, et fassent preuve du même zèle pour s'occuper quand même des violeurs d'enfants, qui sont toujours en liberté. On a eu la preuve il y a pas très longtemps, et j'aurais aimé que les services de l'État fassent preuve du même zèle, quand même, au lieu d'entraver les policiers municipaux. Et je voudrais remercier notre police municipale qui fait un travail remarquable. Et malheureusement, on nous donne pas les moyens, et aux policiers municipaux et aux maires, d'assurer la liberté, parce que je considère que c'est un respect de la liberté de chacun d'avoir droit à un repos. Quand vous avez des jeunes qui font ou du bruit jusqu'à 2h du matin, alors qu'en ce moment dans les chantiers, les travailleurs commencent très tôt pour finir plus tôt en raison de la canicule. Quand vous avez des malades, quand vous avez des personnes âgées,
mais à Saint-Chamond, pour que vous preniez cette décision à Chamond, j'imagine c'est vraiment un phénomène important.
Oh, c'est pas un phénomène important, c'est dans quelques quartiers, mais n'empêche que ça ne devrait pas se produire dans certains quartiers. C'est le respect de la liberté individuelle que d'avoir droit à un repos nocturne, autant pour les personnes âgées, pour les malades,
c'est tout le problème monde, des nuisances nocturnes. Régis Cadegros, encore une fois, je reviens sur la responsabilité des parents. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord mettre en cause les parents, les convoquer, je sais pas si c'est évident, mais en tout cas en mairie, par la police militaire.
C'était un moyen de le faire, parce qu'à partir du moment où on pouvait prendre les jeunes avec la police nationale, les contrôler, on les emmenait au poste, et à ce moment-là, les policiers nationaux convoquaient les parents et leur faisaient un rappel à l'ordre, voire, ou s'il y avait récidive, leur mettait une amende. Donc c'était un moyen de les sensibiliser, bien au contraire, que cet arrêté que nous avons pris.
Et que vous disent vos administrés?
Mes administrés, écoutez, moi j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes quand on a pris cet arrêté pour nous remercier. J'ai même eu une personne qui m'a dit « J'ai pu enfin dormir cette nuit ». Parce qu'il y avait moins de bruit depuis que vous avez pris cet arrêté. Bon, nous avons eu énormément de témoignages avec le maire Axel Dugas, pour nous remercier d'avoir pris cet arrêté. C'est pour ça que moi je suis vraiment stupéfait que
la justice ait décidé de retoquer votre arrêté. Mais vous allez faire appel, vous, alors prendre un nouvel arrêté ou attendre?
Eh ben, écoutez, on va en parler ensemble avec l'équipe municipale et puis on prendra une décision à ce moment-là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Régis Cadegros, premier adjoint à la mairie de Saint-Chamond dans la Loire. Et si vous voulez continuer à réagir sur cette question des couvre-feux pour les mineurs dans un certain nombre de communes, vous nous appelez au 3216 RMC 8h21. Pierre Rondeau, notre économiste, est avec nous. Pierre, garde à vous C'est peut-être l'une des conséquences de la hausse des budgets militaires, de la hausse donc de qui explose, hein, même on en parlait déjà hier. Les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers le secteur de la défense.
Oui, hein, ce n'est plus un tabou. Déjà au début de l'année, rappelez-vous, on apprenait que Renault avait signé un contrat estimé à 1 milliard d'euros pour fabriquer des drones militaires dans ses usines du Mans et de Cléon. Et c'est maintenant au tour de Valeo et de Forvia, les deux principaux équipementiers automobiles français, de se lancer dans la défense. Le premier, Valeo, spécialisé dans la production d'équipements, de systèmes intégrés et de logiciels pour l'industrie automobile, a annoncé un partenariat avec une start-up française pour un moteur électrique de drone. Quant à Forvia, qui produit des composants et des technologies de pointe pour l'industrie automobile, l'entreprise a officialisé un partenariat avec une entreprise française pour produire 500 drones par mois.
Donc les constructeurs automobiles investissent, enfin tous ceux qui tournent autour de l'automobile, dans la défense, quitte à abandonner leur secteur d'origine. On sait que les ventes de voitures, elles sont en baisse.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre 2023 et 2025, le nombre d'immatriculations de voitures neuves en France a baissé. Même si les ventes ont repris depuis le début janvier depuis janvier 2026, les immatriculations n'ont toujours pas retrouvé le niveau d'avant Covid. Mmh. Et en face, les budgets de la défense sont en augmentation. C'est une simple question de pragmatisme économique.
Voilà où il y a de l'argent.
Exactement. Mmh. Vont là où il y a de l'argent, vont là où se signent les contrats. Les Français achètent moins de voitures, mais les États achètent plus de drones. Les constructeurs se tournent alors vers le plus offrant.
Et le secteur de la défense, c'est un secteur en très bonne santé financière.
Idem, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Les pays de l'OTAN se sont engagés en juin 2025 à consacrer 3,5% de leur produit intérieur brut pour leurs armées d'ici 2035 et 1,5% supplémentaire pour les dépenses de sécurité, ce qui promet d'importantes commandes de matériel et donc d'importantes débouchés pour les entreprises associées. Il n'y a plus de tabou, les constructeurs automobiles sont prêts à participer à l'économie de la défense. Reste maintenant à savoir si cela sera accepté sur le terrain, parce que prenez Renault par exemple, la CGT a déjà annoncé son opposition au projet de construction de drones. Le salarié du secteur automobile veut faire des automobiles, pas du matériel militaire.
C'est un moment important maintenant si vous avez l'intention de partir en vacances et de prendre la route. Les prix des carburants ce jeudi 6 août.
C'est en très légère baisse.
Non.
Baisse, mais très légère. On était pour le samplon 95 le litre à 2,021 €.
Super.
On est à 2,015 €. Donc,
génial.
Le gazole, 2,238 €, 2,231 €.
Oh, bah, c'est une affaire.
Baisse. Le baril ici, pareil, il y a une baisse très faible. $80,95 hier, $79,75 aujourd'hui. Et le gaz, €55,22 hier, €53,44 aujourd'hui.
Merci, Pierre Rondeau, notre économiste. Allez, on va se détendre un peu. Il a pris quelques jours de vacances. Mais avant de partir, il nous a laissé son meilleur, c'est Arnaud Demange.
David Béliard, candidat écologiste municipal de 2026, veut ouvrir 6 nouvelles salles de shoot à Paris.
Il l'a annoncé sur RMC.
Il l'a annoncé chez nous, ça. 6 salles. Voilà, là c'est une franchise, hein. C'est une chaîne de fast-food, c'est McDonald's.
Bonjour, bienvenue chez McDonald's, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Je vais prendre un menu toxico, maxi toxico en XXL, avec une boîte de 9 rails de coke, 3 seringues de MD, supplément champignon hallucinogène, une petite héroïne, et en boisson une bouteille de Clan Campbell.
Non, alors désolé, on vend pas d'alcool, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Bon, un protoxyde d'azote pétillant, alors. À propos de protoxyde d'azote, David Béliard n'a pas de lien de parenté avec Mathieu Béliard, et avec qui on parlait de protoxyde d'azote l'autre jour, et il me disait, ça m'embête quand même s'ils interdisent la vente, parce que moi j'en achète pour mon siphon à chantilly,
je fais des mousses de chorizo. Il a vraiment dit ça.
Oui, les mousses de chorizo. C'est vrai qu'on ne pense pas assez aux gens qui font des mousses de chorizo.
C'est vrai, Mathieu.
Mathieu, j'adore. Mais voilà, c'est plutôt niche, quoi. Mathieu, quand il va à la pharmacie, quand il va à la pharmacie, il fait bonjour, 4 seringues, s'il vous plaît, parce que je fais de la cuisine moléculaire. Je fais un nuage cryogénique de velouté de potimarron à cœur fluide, déposé sur un gel thermoréversible de parmesan aérien. Vous allez voir qu'un jour, il y a le gel IGN qui va croire débarquer dans un laboratoire clandestin, et en fait, il y aura Mathieu furieux avec une toque, une louche, un tablier. Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Non, touchez pas à ça. C'est mes substrats de cookies polymérisés. Touchez pas.
Vous les goûtez?
Ah bah ouais, avec plaisir. J'ai jamais goûté de substrat de cookies polymérisés. Alors le but, c'est d'éradiquer la consommation de drogue dans la rue parce que c'est désagréable pour les passants. Et alors là, j'ai une suggestion. Le futur maire de Paris en moi veut s'exprimer. Est-ce qu'on pourrait pas aussi créer des salles d'insultes à Paris? Parce que c'est désagréable les gens qui s'engueulent dans la rue. Créons des salles spéciales avec des piétons, des trottinettes, des automobilistes qui pourraient dire « Eh, c'était rouge, abruti Et la piste cyclable, c'est fait pour ta mère Eh, le code de la route, il n'était pas livré avec ta trottinette Allez, les ramolos, là Vous savez qui m'a soufflé ça? C'est ma femme, elle conduit comme ça.
Elle dit « Allez, les ramolos !»
Tout le monde ressortirait plus zen au lieu de s'insulter partout. Ah ouais. On se donnerait rendez-vous.
Pardon, monsieur, vous serez dispo lundi en 8 pour que je puisse insulter votre grand-mère dans la salle d'insultes.
Faudrait réserver 3 mois à l'avance, ça aurait un succès. C'est fou.
Non, mais oui, mais moi je paye.
Allez, dans un instant sur RMC, RMC Story, la météo, le journal, et puis l'invité d'RMC à 8h45, incendie, inondation, tempête, jusqu'à combien, jusqu'où vont grimper les prix de vos assurances? Le patron de la Massif nous répond juste après ce journal. À tout de suite sur RMC et sur RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouiz. Clément, malgré les incendies en Gironde, les vacanciers reviennent.
Les annulations restent limitées, les hôteliers et restaurateurs respirent un peu. C'est le compte à rebours pour Duralex, le dernier jour pour les candidats à la reprise de la verrerie pour déposer leur offre. Et la désillusion pour Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France femme. La Française a tout perdu hier sur la 5e étape et pointe à 5 minutes du maillot jaune.
Après les incendies, les touristes reviennent en Gironde.
Les professionnels du tourisme ont multiplié les appels ces derniers jours pour que les vacanciers n'annulent pas leur séjour. Le message a, semble-t-il, été entendu. Les réservations sont maintenues à 74% d'après Atout France. Le taux d'occupation la semaine prochaine va monter à 60%. De quoi, Marion Gauthier, redonner un peu le sourire aux restaurateurs, hôteliers que vous avez pu rencontrer à Arcachon.
Les parasols à nouveau plantés dans le sable.
Le week-end dernier, il n'y avait personne.
Et des touristes qui voudraient être plus nombreux.
Le monde aux caisses. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. C'est les vacances, quoi.
Ça permet de se dire aussi que les incendies, c'est derrière nous et que la région revit, quoi.
Vous avez choisi ou pas encore ?
Les terrasses sont clairsemées, mais le parking de la plage est plein, plaisante une serveuse.
Voilà, il était temps. C'est pas un mois d'août comme on l'attend, mais sinon, oui, on récupère un petit peu plus chaque jour.
Environ 40% de pertes, c'était 60 la semaine dernière.
On voit certaines voitures arriver avec des valises dedans, quelques arrivées donc au niveau du train, des activités en bateau ont repris.
Mais en retrait du bassin d'Arcachon, de la désillusion aussi.
Voilà, c'est vide, ça fait mal.
Dans le silence du camping de Lionel.
Normalement, là, tous les emplacements sont pris à cette époque-là, et là, vous voyez, il y en a un sur deux, quoi. Donc ça fait un taux d'occupation de 58%. Au mois d'août, c'est même pas imaginable. C'est des rires nerveux, c'est nerveux.
Toute la Gironde n'a pas brûlé, insiste-t-il. Beaucoup de professionnels reprochent à la préfète d'avoir incité les touristes à ne pas venir dans le département.
Les pompiers toujours mobilisés dans le Var. L'incendie dans le secteur de Corrance n'est toujours pas fixé mais stabilisé. Les autorités craignent des reprises de feu aujourd'hui en raison du Mistral et de la canicule, jusqu'à 40 degrés attendus aujourd'hui. Le corps d'une femme emportée mardi par une coulée de boue en Haute-Savoie a été retrouvé hier. La victime, originaire de l'Oise, âgée de 56 ans, était en vacances avec son mari. Ils ont été surpris par un violent orage et la montée des eaux.
RMC 8h32, la Russie s'invite-t-elle déjà dans la présidentielle française?
Gabriel Attal affirme avoir été visé par une campagne d'ingérence, désinformation, manipulation en ligne, et Sonia Gobry. L'alerte est prise très au sérieux par les autorités. C'est la troisième ingérence étrangère pro-russe en quelques jours.
Et avec toujours le même mode opératoire, identité visuelle, logo de grands médias français usurpés pour diffuser de manière coordonnée sur les réseaux sociaux, de fausses rumeurs, des montages truqués. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, ciblés à 8 mois de la présidentielle. L'objectif est clair, déstabiliser la campagne. Pour l'instant, ces opérations de manipulation restent limitées, elles sont peu visibles, mais la vigilance reste de mise. Auprès de RMC, une source sécuritaire prévient, il en suffit d'une d'ampleur et là, il y aura un impact sur le débat public. La menace est réelle, met en garde le Premier ministre Sébastien Lecornu. Alors, pour mieux lutter contre les ingérences étrangères, le gouvernement a présenté un projet de loi qui doit être examiné cet automne. Il prévoit notamment de durcir les peines en cas de diffusion de fausses informations dans un contexte électoral.
L'évacuation de la ville de Kramatorsk en Ukraine, des centaines de familles sont concernées. Décision prise par les autorités ukrainiennes en raison de l'intensification des frappes russes. De son côté, la Russie affirme avoir abattu cette nuit plus de 600 drones ukrainiens au-dessus plus d'une vingtaine de régions.
C'est une marque que tout le monde connaît. L'avenir de Duralex se joue dans les prochaines heures.
Placé en redressement judiciaire en juin, la verrerie emblématique joue sa survie. C'est le dernier jour pour les candidats à la reprise de l'entreprise pour déposer leur offre. Mais dans les ateliers, l'espoir s'est émoussé. Salariés et syndicats redoutent le pire, Martin Bourdin.
Le nom du seul repreneur déjà connu ne les rassure pas vraiment, ses salariés. Le groupe Carlessimo, déjà candidat à une reprise il y a 2 ans, avec à l'époque un plan qui prévoyait plus de 150 suppressions d'emplois.
Une chose qui est sûre, c'est qu'il va y avoir la casse salariale. Hein.
François Dufresne est délégué syndical CGT à Duralex.
On a toujours l'espoir, on l'espère pour les salariés. Mais bon, j'ai plus l'impression que ça va être des coupeurs de tête qui vont arriver. Quand ça fait 35 ans que vous y êtes et c'est la 5e reprise... On commence à être blasé. T'as l'impression qu'on nous roule dans la farine. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait de l'artisanal. On est incapable de calculer un prix de revient. Le coût de fabrication, il est énorme aujourd'hui. Tant qu'on sera pas capable de stabiliser tout ça, on verra pas clair.
Depuis 2 ans, une seule des 5 lignes de production de la verrerie fonctionne.
Moi, j'ai connu à 35 ans, se battait pour les arrêts de ligne, pour faire un minimum d'arrêts de ligne, pour produire un maximum. Et là, on fait le contraire.
Car Duralex a trop de stock. L'entreprise expliquait début juin produire trop pour trop cher. Les ventes ne suivent pas, ce qui aggrave les difficultés financières d'une verrerie déjà pénalisée par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.
Plus de 10 000 internes attendus à la rentrée dans les hôpitaux.
Et cela représente une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière. Chiffre du ministère de la Santé qui parle de progression historique. Cela fera des bras en plus dans les spécialités en tension, notamment la pédiatrie. Une bonne nouvelle donc pour les professionnels, mais qui ne suffira pas à combler les déserts médicaux, selon Gérard Raymond, président de France Assos Santé.
Il nous faut beaucoup plus de professionnels de santé, parce que les conditions de travail ont changé, et c'est une excellente chose. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'on aura beaucoup plus de professionnels de santé que l'on arrivera à la fin des déserts médicaux. C'est aussi une question de répartition. D'abord, à l'hôpital, c'est une chose. Pour nous, ce qui est important, c'est la réponse sur le territoire, auprès du domicile, des lieux de vie, de l'ensemble de nos concitoyens. Et là, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de cette réorganisation d'une façon beaucoup plus collective et mieux coordonnée.
Les couvre-feux municipaux pour les moins de 16 ans stoppés net par la justice, les arrêtés qui interdisaient dans plusieurs communes de la Loire, les regroupements nocturnes et la présence de mineurs non accompagnés après 23 heures sont suspendus. Pour le tribunal administratif de Lyon, ces mesures ne sont pas suffisamment justifiées. Le FLNC rejette l'autonomie en discussion pour la Corse. Il dénonce une mascarade, propos tenus hier soir lors d'une conférence de presse clandestine. Le mouvement indépendantiste menace aussi les non-corses venus s'installer sur l'île. Leur message est clair, restez chez vous.
RMC 8h36, reprise compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire pour le PSG à une semaine de la Supercoupe d'Europe.
Premier match amical hier soir et lourde défaite 3-0 contre Majorque. Raphaël Paul, adjoint de Luis Enrique, appelle son groupe à vite monter en puissance.
Évidemment, le résultat, c'est pas celui qu'on attendait, c'est pas celui qu'on avait envie d'avoir, mais je pense qu'il faut regarder aussi les choses positives. Il y a plein de joueurs qui ont joué son premier match. Et bon, il faut avancer, continuer à travailler, parce que dans une semaine, on a la première finale de cette saison. Alors oui, il faudra avancer vite, parce que ça commence déjà.
La Supercoupe d'Europe 1 PSG Aston Villa, c'est mercredi prochain à 21h à suivre sur RMC.
On peut d'ores et déjà le dire, Pauline Ferrand-Prévot a perdu le Tour de France femme.
La tenante du titre a perdu hier pied lors de la 5e étape. Larguée à 5 minutes du maillot jaune, Marlène Rösser et Pierre Thévenet. Elle peut donc dire adieu à sa couronne.
Oui, à l'arrivée de cette étape exténuante, Pauline Ferrand-Prévot se veut réaliste.
Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence et que ça va être vraiment dur d'aller chercher le général. J'ai pas vu les temps, mais j'ai pas trop envie de les voir pour l'instant.
5 minutes, voilà l'écart qui la sépare désormais de la leader Marlène Rösser, qui s'est échappée hier dans l'avant-dernière ascension sous l'impulsion de Demi Vollering et de Kasia Niewiadoma.
Voilà, elles sont clairement au-dessus, même en boss. J'ai aucune honte à le dire et c'est comme ça. On peut pas toujours, gagner, mais au moins on peut se battre et puis j'ai essayé. Je peux pas dire que je me suis senti mal ou que j'ai eu une défaillance, je pense qu'elles sont seulement beaucoup plus fortes.
La Française garde le sourire malgré ce début de Tour de France compliqué. Décrochée de la course au maillot jaune, elle vise désormais une victoire de prestige sur la fin de l'épreuve.
Maintenant aussi, j'aurais peut-être l'opportunité d'aller chercher une étape. Ça serait, voilà, même n'importe quelles étapes, j'ai envie de dire, même si c'est la dernière, je la prends aussi. Je prends tout.
Se porter à l'avant et lever les bras sur une étape, ce sera sans doute également l'ambition de l'autre Française, Cédrine Carbajal. Elle visait, elle aussi, une belle place au classement général et a perdu du temps hier.
Place aujourd'hui à la sixième étape entre Montbrison et Tournant sur Rhône. Intégral Tour à partir de 15h sur RMC.
Clément, ce sera en nocturne à 20h15. Le Quintet Plus se déroule sur l'hippodrome d'Anguin.
Et le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori, le 14, Musemaker, et son outsider est le 3, Miss Disco.
Merci beaucoup Clément. Prochain journal, ce sera à 9h. On va au 32-16. Pour retrouver Lydia. Bonjour Lydia.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. On est dans le Vaucluse, Lydia.
Oui, c'est ça. Il fait très chaud.
Et il fait très chaud. Combien en ce moment? Enfin, hier?
Chez moi, j'ai 27.
27, là, en ce moment, à 8h39. Oui, donc ça va
dans
chauffer.
Dans mon appartement, oui. C'est pas climatisé, c'est pas isolé, c'est pas, voilà.
Vous devriez peut-être demander un coup de main à l'Assemblée nationale, Lydia, parce que c'est de ça dont vous voulez nous parler, projet. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est ce projet-là, architectural. On refait l'entrée de l'Assemblée nationale, l'entrée qui est là pour accueillir le public. Donc, c'est un projet architectural à plus de 50 millions d'euros. Et je pense savoir que pour vous, Lydia, c'est pas la priorité du tout.
Ah non, pas du tout. Alors, outre le fait, ma réaction, elle est très simple, hein, outre le fait qu'on recherche du budget, que la France brûle, qu'il n'y a pas les moyens pour les pompiers, etc. Et on va dépenser 50 000 euros pour une entrée. 50 millions d'euros.
C'est même 53 millions ou 52 800 000 euros. Pour être précis.
Voilà, plus les délais, plus les rajouts, plus les machins. Enfin,
ça, c'est pas faux.
Le monde à l'envers, quoi. Une dépense, complètement. On doit rogner sur les budgets, on emmerde les gens, si je peux me permettre, les petites gens avec les impôts, les taxes, l'excellence, etc. Et l'Assemblée décide d'aller dépenser 53 millions d'euros comme ça.
D'autant que l'Assemblée dit, attention, il n'y a pas d'emprunt, hein, c'est sur les fonds propres de l'Assemblée nationale, mais enfin, d'après ce que je sais, les fonds propres de l'Assemblée nationale, c'est notre argent, c'est de l'argent de nos impôts. Hein.
Exactement. C'est pour ça que c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Il y a d'autres choses à faire pour l'instant. C'est pas une priorité.
C'est entendu. Et c'est entendu. Et merci de ce message. En tout cas, votre message est passé sur RMC, RMC Story. Merci Lydia de nous avoir appelé depuis le Vaucluse. Et bon courage avec la chaleur qu'il fait en ce moment dans la région. Allez, dans un instant, c'est le choix de la rédaction avec une enquête RMC de Lucille Pascanet. Après les nombreux incendies de cet été, le nombre de demandes pour devenir pompier volontaire explose. C'est dans un instant sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC 8h43. Le choix de la rédaction, une enquête RMC de Lucille Pascanet. Après les nombreux incendies qui ont touché la France cet été, les pompiers sont sur le devant de la scène et vous avez constaté, Lucille, que dans de nombreux centres départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, les demandes pour devenir pompiers volontaires explosent.
Oui, en Gironde, déjà, les candidatures ont triplé, 400 sur les 10 derniers jours, contre 80 d'habitude sur la même période. Mais les volontaires sont nombreux partout en France, que ce soit en Loire-Atlantique, en Meurthe-et-Moselle ou dans le Puy-de-Dôme. Le téléphone des bureaux du volontariat n'arrête pas de sonner. Dans l'Indre, le nombre de marques d'intérêt a triplé.
Notre service RH, il a enregistré 32 demandes là, ces derniers jours. On en a peut-être toujours entre 5 et 10 en même temps.
Guillaume Bouquet est le directeur adjoint du SDIS de l'Indre.
Il est probable que les gens, ils été émus ou peut-être qu'ils ont été touchés eux-mêmes. Il y a eu des incendies évidemment beaucoup plus dans le sud, mais partout en France et y compris ici, dans l'Indre, il y a toute une partie de la population probablement qui se dit « mais comment finalement je peux aider ?» Une des manières d'aider, c'est de pouvoir devenir sapeur-pompier volontaire.
Il espère que cette tendance va se pérenniser et que ces volontaires intéressés iront jusqu'au bout de la démarche.
Alors Lucille, ces volontaires, qui sont-ils ?
Eh bien, tout le monde, homme ou femme, entre 16 et 55 ans peut candidater. Moi, j'ai échangé avec Gabriel Martin, 18 ans, qui vit en Meurthe-et-Moselle. Les feux de ces dernières semaines l'ont convaincu de passer le pas.
C'est déjà passé dans ma tête, oui, mais pas réellement une idée qui pourrait se concrétiser. Mais évidemment, avec ce qui se passe actuellement, je pense que je suis obligé d'essayer de m'engager et de passer les tests. Il y a plein de types de bénévoles. Mais moi, j'ai envie d'être au cœur de l'action.
Il a donc envoyé un mail cette semaine.
Il m'a répondu très rapidement le lendemain matin. En me donnant toutes les informations et les dates de recrutement de la caserne qui est la plus proche de chez moi. Et puis maintenant, à savoir quand est-ce que je pourrais y aller.
Il n'y a plus qu'à alors.
La première étape, c'est un entretien, m'a expliqué Olivier Richefou. Il est président du Conseil national des services départementaux d'incendie et de secours.
Il y a des tests à passer, des tests notamment psychologiques et puis des tests physiques. Et puis une fois que ces tests sont passés, eh bien il y a une formation, souvent sur plusieurs mois. Et puis petit à petit, on commence à intervenir auprès de collègues plus aguerris. Tous les mois, ils ont des séances d'entraînement bien évidemment, pour continuer à se former.
Cet engouement le réjouit. Sa fédération milite pour que le nombre de pompiers volontaires passe à moyen terme de 200 000 à 250 000.
Merci Lucille Pascanet. Tiens, justement, Michel est avec nous au 32-16. On est en Savoie, à Ugine. Je connais bien Michel. Vous êtes technicien hospitalier, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bonjour à tous.
Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Et vous êtes ancien sapeur-pompier volontaire et ça vous fait réagir, cette info sur l'explosion du nombre de candidatures pour devenir sapeur-pompier volontaire.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une bonne chose d'avoir médiatisé, par la force des choses, de parler du milieu de l'activité de sapeurs-pompiers volontaires. Tant mieux si on a du monde qui va s'inscrire aujourd'hui pour entrer. On sait, et je pense que les témoignages de ce matin le prouvent, que sur 10 rentrées, on va avoir au moins que 2 personnes peut-être qui vont rester. Mmh. Mais il faut le prendre, c'est positif. Il faut le prendre quand même, de toute façon. Je pense que les vrais, enfin ceux qui ont la vraie vocation, n'ont pas besoin d'attendre qu'on vienne les chercher. Je pense qu'ils vont d'eux-mêmes rentrer, frapper à la porte et puis pour donner un peu de son temps. Ce qu'on parle pas souvent, c'est aussi du temps qu'on doit donner. C'est forcément, on a vu des gens qui sont engagés pendant des semaines sur des feux, mais il y a aussi tout le côté formation, le côté astreinte.
C'est vrai que Michel, on prépare le temps. Je suis désolé Michel, mais c'est important ce que dit Michel, parce que sapeur-pompier volontaire, il faut savoir que voilà, vous êtes dédommagé, mais que vous gardez votre métier, qu'il faut savoir gérer sur son temps. Merci Michel d'avoir été avec nous depuis Ugine en Savoie. 240 maisons détruites en Gironde. Les assureurs ont exceptionnellement repoussé au 31 août le délai de déclaration des sinistres. Normalement, c'est 5 jours. Mais quand les sinistrés seront-ils indemnisés ? Vont-ils l'être à la hauteur des sinistres subis ? Incendies, inondations, tempêtes, combien cela va nous coûter ? Parce que forcément, le prix des assurances va augmenter. Réponse dans un instant avec Jean-Philippe Donnieton. Il est le directeur général de la Massif. Vous voulez lui poser directement une question ? Vous nous appelez au 32-16.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h49, après les terribles incendies en Gironde, dans le Var notamment, des milliers de sinistrés qui doivent désormais tout déclarer, tout reconstruire, tout prouver. En ce qui concerne les dommages subis, les assureurs ont exceptionnellement repoussé au 31 août le délai de déclaration de ces sinistres au lieu de 5 jours réglementaires. Mais derrière l'urgence, une question de fond, les méga-feux, les inondations, les tempêtes, qui va payer et combien de temps encore ? Bonjour Jean-Philippe Donnieton.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur. Vous êtes le directeur général de la Massif. J'ai une première question. Où en est-on ce matin en Gironde en ce qui concerne les sinistrés qui sont assurés chez vous? Vous en accompagnez combien exactement?
Je vais vous répondre immédiatement, mais permettez-moi d'avoir à cet instant une pensée pour toutes les victimes directes de ces sinistres qui ont parfois tout perdu, mais aussi, me semble-t-il, insister sur les dizaines de milliers de déplacés. Ce sont des déplacés climatiques, et à cette échelle, en France, c'est la première fois.
Jusqu'à 220 000 déplacés.
Oui, c'est un signal pour l'avenir, c'est un signal très fort. Et puis à l'instant, vous avez valorisé les bénévoles et les pompiers volontaires. Alors permettez-moi un clin d'œil à destination des salariés Massif qui étaient pompiers volontaires et qui étaient sur le feu en Gironde.
Donc alors, en Gironde, vous avez relongé combien de familles ?
Alors aujourd'hui, on a 2200 déclarations et semble-t-il une cinquantaine de maisons totalement détruites. Mais nous ne sommes pas certains d'avoir toutes les déclarations. Alors ce que nous faisons à notre échelle dans notre entreprise, c'est que nous appelons l'ensemble des sociétaires de Gironde et Landes dans les zones les plus sinistrées. Alors on pense Le Porge, Lège, Cap Ferré, etc. On prend les devants. Quand on n'a pas de nouvelles, on appelle. Voilà. Et les retours sont évidemment très intéressant ou très intéressé, et ça nous permet d'avoir une vision la plus complète possible. Et par ailleurs, il y a eu le temps de l'urgence. Alors, le temps de l'urgence, c'est l'assistance, c'est la mobilité, c'est le relogement, c'est l'assistance psychologique. Donc il y a des temps forts dans une gestion de sinistre. Vous avez le temps de l'urgence, vous avez le temps de la déclaration. C'est pour ça que le temps va être élargi jusqu'au 31 août. Et il y a le moment de la gestion.
En parlant de gestion et de temps, Jean-Philippe Donnieton, ceux qui ont tout perdu, quand vont-ils concrètement être dédommagés ?
Alors déjà, il y a le retour sur site, hein, parce que vous savez que ça a été un peu long. Oui. C'est la découverte pour certains d'entre eux. Mmh. Donc c'est le moment psychologique. Là, il faut gérer le relogement parce qu'il n'y a plus rien, soit en famille, soit sur d'autres sites. Ça, c'est l'urgence. Et puis, c'est le missionnement des experts. Donc les experts vont venir à la rencontre de ces sinistrés. Et pourquoi tient-on à élargir le délai? Parce que d'abord, il y a le traumatisme et ensuite, il y a le travail de mémoire. Parce que spontanément, difficile de savoir ce que vous aviez quand tout a été détruit.
Ah oui.
Donc il faut que finalement chacun se remette dans son esprit, le meilleur esprit possible, pour essayer d'imaginer, de se rappeler ce qu'il y avait comme souvenir, comme élément, comme dans cette maison.
Vous avez assez de monde.
Chiffrage.
Vous avez assez de monde sur le terrain pour aller accélérer ces expertises, sincèrement.
Alors là, il y a à la fois des salariés sur le terrain avec des inspecteurs qui peuvent circuler. Mmh. Il y a les experts qui sont missionnés. Il y a autour de 300 missions d'expertise aujourd'hui qui sont déclenchées. Donc il faut mobiliser des experts qui sont des gens indépendants. Hein. Mmh. Et puis il y a tout le travail à distance. On a, quand je le disais, le numéro vert, c'est une possibilité d'appeler un conseiller massif qui en direct vous tient informé de la situation et qui peut déléguer quelqu'un sur place. Et ce qu'on envisage, évidemment, c'est un déplacement, une itinérance dans les villages les plus et dans les communes les plus touchées.
Vous le savez comme moi, comme on le sait tous désormais, c'en est une preuve supplémentaire, Jean-Philippe Daugneton, ce type de catastrophe va se multiplier, et c'est déjà le cas, hein, et ça va se multiplier à court terme, tempête, inondation, incendie, méga-incendie. Comment, est-ce que les assurances ont le dos suffisamment large, soyons objectifs, hein, soyons vraiment honnêtes, pour gérer la masse financière que ça va représenter?
Alors si vous regardez le début de l'année, hein, si on regarde cette année 2026 qui n'est pas terminée, et la mémoire souvent est absente, mais début d'année, c'est 3 tempêtes.
Ouais.
Juin, juillet, c'est 2 phénomènes grêles d'une intensité incroyable. Nous vivons une sécheresse dans cette période. On pense aux incendies, mais il n'y a pas que ça.
Mmh.
En réalité, il y a les mouvements de sol, les mouvements de terrain qui vont entraîner des fissures sur les bâtiments, etc. Oui, nous traversons une époque qui s'aggrave sur le plan climatique, on le constate tous, et la projection à 2050 s'est multipliée par 2 en termes de charges. Et il y a un document que tous les politiques et même tous les Français pourraient lire à l'occasion, c'est accessible, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique. Il a été fait en 2025, il imagine la France à plus 4 degrés.
Et ça, on a du mal à se représenter, mais c'est phénoménal. Et Jean-Philippe Daugneton, excusez-moi, j'essaie vraiment d'être très concret. Est-ce que vous avez la capacité financière pour assumer ce que ça va représenter comme dégâts? Et forcément, les primes d'assurance que nous payons, ça va exploser.
Bien sûr. Alors, l'objet de l'assurance, hein, une assurance, son intérêt, c'est d'assurer. Hein. Faut s'en convaincre, c'est de ne pas assurer. Mmh. Donc déjà, c'est ça la ligne. Le deuxième, c'est il faut effectivement résister dans le temps. Et pour résister dans le temps, quand une cotisation moyenne habitation, aujourd'hui c'est 300 euros, eh bien, il faut anticiper l'avenir et lisser les augmentations. Ça passera.
Ouais, mais ça va monter jusqu'à combien? Ça peut monter jusqu'à combien? Est-ce que vous avez des projections?
Ben, vous voyez, si la charge unique augmente est multipliée par 2 d'ici à 2050, on peut imaginer que la prime suivra dans le même ordre.
Donc on pourrait être à 600 euros.
Mais à 2050.
Mais c'est demain.
Et l'idée, c'est de lisser la charge. Et vous avez vu, par exemple, l'an dernier, le gouvernement a augmenté la surprime CatNat. La CatNat, c'est 40 euros par foyer et par an pour vous couvrir des inondations, des tremblements de terre et des sécheresses, par exemple. 40 euros en moyenne et par an. Ça, c'est la réalité. Et si on, de manière raisonnable, on lisse cette augmentation dans le temps, c'est tenable.
C'est tenable. Merci beaucoup Jean-Philippe Daugneton d'avoir été avec nous, directeur général de la Massif. Merci d'avoir été avec nous sur RMC, RMC Story. Il est bientôt 9h, tout de suite le journal, la météo et puis le meilleur des grandes gueules. Nous, on se retrouve à Pauline Matin demain matin, dès 7h et même dès 6h avec Victor Pourchet. À demain.